Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur votre radio locale Ornithorynque, votre radio basée à Bouloir, en génois bilurien, que vous écoutez sur le 90.2 FM en Sarthe, en DAB+, sur le canal 7B, les enceintes connectées et sur le site internet de la radio ornithorynque.net. Aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale et une émission préparée et animée par des collégiens. Chaque année, les élèves de 5e du collège Guillaume Apollinaire de Bouloir créent de A à Z des chroniques pour l'enregistrement d'une émission de radio qui s'appelle Le Collège en Folie. Cette année, l'émission du Collège en Folie sera constituée de 7 chroniques avec des thèmes aussi divers que variés, concoctés par 17 collégiens. Après une année de préparation sous la direction de deux professeurs, Madame Billon, professeure documentaliste, et Madame Terperot, professeure d'histoire-géographie au sein du collège, les élèves vont se succéder en duo ou en trio pour vous parler de leur thème, leur choix, leur envie ou même leur coup de cœur. Nous en profitons pour remercier Madame Ries, principale du collège Guillaume Apollinaire de Bouloir, et son adjoint Monsieur Carré pour leur accueil. On se trouve dans le centre de documentation et d'information, le CDI du collège, pour l'enregistrement de cette émission dans des conditions du direct. Un bel exercice pour ses élèves. Le Collège en Folie 2025, c'est parti! Et pour démarrer cette émission, je reçois autour de moi Melvin. Bonjour. On reçoit également Chris. Bonjour Chris.
Bonjour tout le monde.
Et Tyrone.
Bonjour.
Alors les gars, eh bien, c'est à vous.
On va vous parler du grand monde des petites maisons, les tiny houses.
Mais au fait, c'est quoi une tiny house ?
La tiny house est une petite habitation, souvent de 12 à 20 mètres carrés, souvent montée sur roue, conçue pour une existence minimaliste, mais qui n'a rien à voir avec un mobile home.
C'est quoi la différence alors ?
Le mobile home est une habitation fabriquée pour être installée de manière semi-permanente sur un terrain. On l'installe souvent sur les terrains de camping. Il n'est pas conçu pour être déplacé, contrairement au tiny house.
Une tiny, c'est une caravane alors ?
Mais non ! Très longtemps mal encadrées par la loi, les tiny houses ont été longtemps assimilées aux caravanes.
Mais les caravanes sont souvent construites avec des matériaux comme le plastique et le métal. Elles servent principalement aux vacances.
Contrairement aux tiny houses, qui sont des maisons sur roues souvent construites de bois.
Les tiny sont des petites maisons qui utilisent moins de matériaux qu'une maison ordinaire.
Cela a un impact sur les ressources nécessaires à leur construction. Donc, il y a une empreinte carbone réduite en utilisant des matériaux recyclables. Les tiny houses sont aussi plus petites que les maisons ordinaires. Elles ne peuvent pas faire la taille et le poids qu'elles veulent.
Et oui, en France, les limites sont 2 mètres 5 de large.
5 à 8 mètres de long.
Et 4 mètres de hauteur maximum.
Tyrone, peux-tu nous dire quand et par qui la première tiny house a été créée ?
La première tiny house a été créée en 1929 par Charles Miller aux États-Unis. Mais elles sont surtout développées en 2008 après la crise financière de 2007.
Cela a eu pour effet de rendre les tiny houses populaires aux États-Unis.
Et oui, avec leur bas prix, les tiny se vendent plus qu'une maison classique.
Après le Covid, les tiny houses sont devenues plus populaires en France.
Aujourd'hui, avec la hausse du prix et des matériaux et les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté, ces petites maisons semblent être une solution pour beaucoup de Français.
Et quels sont les avantages d'une tiny house ?
De 1, elle est facile à chauffer car elle est petite. Et oui, elle est petite, donc pas besoin de beaucoup chauffer.
Elles sont aussi moins chères qu'une maison ordinaire. Le prix d'une tiny house est entre 30 et 60 000 euros. Vous pouvez aussi louer des tiny houses.
Et elle est très facile à transporter.
En plus, une tiny house est petite, ce qui réduit les tâches ménagères.
Mais il y a aussi des désavantages.
Ah bon ? Lesquels ?
Par exemple, passer d'une maison traditionnelle à une tiny house nécessite un temps d'adaptation. Il faut faire du vide dans son bazar, il faut garder que l'essentiel.
C'est donc tout un changement de mentalité pour s'habituer à vivre dans un endroit aussi petit.
Trouver un emplacement pour la tiny peut poser des problèmes, comme l'accès à l'eau et à l'électricité.
Car on ne peut pas poser une tiny house n'importe où. Une simple déclaration préalable est nécessaire si la tiny house est d'une superficie inférieure ou égale à 20 mètres carrés. Au-delà, un permis de construire sera demandé pour l'installation d'une tiny house sur un terrain. Si l'occupation est par contre inférieure à 3 mois, aucune autorisation n'est nécessaire.
J'ai été interviewée des personnes qui habitent dans un village de 30 tiny houses à Grandchamp dans le Morbihan pour leur poser des questions.
Pour vous, c'est quoi les avantages d'habiter dans une tiny house plutôt qu'une maison ordinaire ?
Alors les avantages, c'est que naturellement, on va vivre beaucoup plus dehors. On a tendance aussi à moins consommer.
Et les désavantages ?
Ben, c'est qu'il faut faire du tri aussi. On avait beaucoup de choses avant, il faut apprendre à reprioriser, à savoir ce qu'on a vraiment envie de garder, à savoir ce qui est important ou non.
Ok, pour vous, c'est quoi les avantages d'habiter dans une tiny house plutôt qu'une maison ordinaire?
C'est un autre choix de vie. Vraiment, on se retrouve dans la campagne. On n'est pas dans la ville, on est vraiment isolé.
Et les désavantages?
Moi, je pourrais pas t'en dire des désavantages. Des désavantages, je pourrais pas t'en dire.
Mais une tiny house, c'est écologique ou pas?
Oui, car finalement, elles sont construites souvent en bois, demandent moins de matériaux. On consomme aussi moins d'électricité car moins de chauffage. Les tiny houses, malgré leurs défauts, ont beaucoup d'avantages.
Leur prix.
Et le fait qu'elles soient écologiques.
Alors,
mais ordinaire
ou tiny house?
Bravo, les gars. J'espère que ça a été. Vous étiez les premiers à passer dans cette émission, le Collège en Folie. Ça a été pour cette première, les gars.
Oui.
Bon, merci en tout cas à Melvin, Chris et Tyrone. Alors, tiny house, ça signifie petite maison. Ça, on l'a pas souligné. Pourquoi avoir choisi ce thème?
Parce qu'on a fait un sujet en art plastique sur les tiny houses, où on devait faire les plans d'une tiny house. Et avec Chris, on a regardé une émission où il y a des personnes qui construisaient des tiny houses.
Et donc, vous êtes dit, pourquoi pas se lancer là-dessus. Vous connaissez l'histoire, justement, et les contraintes liées au tiny house?
Non, pas vraiment.
Non, ça vous en a fait apprendre un peu plus. Melvin, toi, tu as été à la rencontre d'habitants d'un village de tiny house dans le Morbihan. Comment tu as eu l'idée d'y aller? En fait, comment tu as su qu'il y avait ce village?
Eh ben, on a fait des recherches. Je ne sais plus trop quelles recherches on faisait exactement. Mais on est tombé sur ça, sur un article du West France qui disait que le village de Grandchamp avait créé une espèce de petit village de 30 tiny houses.
D'accord. Et tu y étais comment? À pied, à vélo? Parce qu'il faut se déplacer pour y aller, parce que le Morbihan, ce n'est pas la porte à côté.
Mes grands-parents habitent dans le Morbihan, du coup, j'en ai profité.
D'accord. Et tu n'as pas amené tes copains avec toi en interview?
Malheureusement, non.
Bon, alors, vous avez entendu cette interview. Je tiens quand même à préciser que toutes les interviews que vous allez écouter pendant cette émission et les montages, ce sont les élèves qui ont tout fait. Vous avez emprunté du matériel du CDI pour aller faire vos interviews que vous avez choisies et vous avez fait vous-même le montage. Dernière question, si un jour vos parents décident du jour au lendemain de faire construire une tiny house et vous dites « on va aller vivre dedans », ça vous tente?
Oui.
C'est vrai, tous les trois? Mais il faut se séparer des jeux vidéo, il faut se séparer des consoles, il faut se séparer des télés. Ça le fera quand même?
Oui.
Bon, et ben voilà, et ben comme ça on pourra peut-être vous retrouver un jour et pourquoi pas créer un mini-village de Tiny House dans la Sarthe ou dans le Génois Bilurien. Pour terminer chaque chronique de l'émission Le Collège en Folie, c'est les élèves qui choisissent leur pause musicale et vous avez choisi quel artiste, vous, pour se dire au revoir?
Nous, on a choisi Soprano, enfin, Près des étoiles de Soprano.
Eh ben, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Merci en tout cas à Melvin, Chris et Tyrone pour cette rubrique. Et dans un instant, eh bien, on change de thème.
Un peu plus près des étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Sur terre, un peu plus près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière. Revenir sur terre, la tête d'un espoir. On a tous besoin d'un rêve pour se sentir vivant. On a tous ce potentiel pour faire quelque chose de grand. Combien en nous qui peut changer le sens du vent. Si j'ai la tête dans les nuages, c'est pour les voir de près. Ces étoiles qui me guident vers une meilleure destinée. À quoi sert la vie sans amour ni rêve à exaucer? Donc laisse-moi dans mon vaisseau car je suis prêt à décoller. Un peu plus près de ces étoiles, là où les rêves n'ont pas de frontières. Près des étoiles, pour leur emprunter un peu de lumière.
Soprano à l'instant près des étoiles. C'est l'émission Le Collège en Folie. On a parlé de petites maisons à l'instant avec Melvin, Chris et Tyrone. Et maintenant, nous recevons deux élèves du Collège de Bouloir autour de ce micro. Gabriel, bonjour.
Bonjour.
Et puis Noéline, bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du bienfait des animaux sur l'homme. Plus de la moitié des Français possèdent un animal de compagnie. En 2023, 40 844 animaux ont été adoptés en France à la SPA, Société Protectrice des Animaux. Ils partagent notre quotidien, mais savez-vous vraiment à quel point ils nous font du bien ?
Oui, ils ont des avantages autant physiques que psychiques.
Par exemple ?
Du côté psychique, les animaux nous permettent de rencontrer des gens et de nous faire beaucoup de bien au cerveau, comme nous dit notre vétérinaire Benoît Joris, qui exerce à Thorigné-sur-Dué.
Ils mangent totalement l'animal de compagnie, un catalyseur social. L'animal de compagnie leur permet d'avoir un but dans la vie, de permettre de se lever tous les jours parce qu'ils ont charge, entre guillemets, d'âme par rapport à cet animal de compagnie. Et donc, il faut s'en occuper et ça leur permet d'avoir une activité, d'avoir une motivation. Et puis après, à côté de ça, ben, ça fait partie de la famille. L'animal de compagnie fait partie intégrante de la famille. Alors, je ne le compare pas avec l'humain, mais en tout cas, il a une place au sein des familles qui peut s'apparenter, entre guillemets, à un frère, une sœur, un papa ou une maman.
En câlinant et en tenant dans nos bras nos animaux, cela augmente les niveaux de sérotonine et de dopamine, qui sont des substances chimiques du cerveau apaisantes.
À la suite de ces changements chimiques positifs, nos sentiments de dépression et de solitude peuvent être réduits, tandis que notre estime de soi et notre bonheur peuvent augmenter.
Donc, si je récapitule, les animaux domestiques ont un véritable bienfait. Alors, pourquoi ne pas essayer dans un milieu assez anxiogène pour certains élèves ? Pourquoi ne pas tenter dans un établissement scolaire ?
Pourquoi avez-vous emmené votre chien au collège l'année dernière ?
Parce que l'année dernière, ma compagne était en voyage, en Italie, en voyage scolaire, et je ne pouvais pas la laisser toute la semaine à la maison toute seule, c'était trop long pour elle avec mes horaires.
Quelle est sa race et l'âge ?
Alors, c'est un croisé border collier avec un cavalier King Charles, et elle est toute petite, mais elle a 13 ans, ce qui est assez âgé.
Avez-vous eu un impact de votre chien sur le comportement des élèves, et si oui, lesquels ?
Alors oui, j'ai surtout vu beaucoup d'élèves qui venaient dans mon bureau pour lui dire au revoir ou la caresser, voilà. Et puis j'ai trouvé que c'était assez apaisant, voilà.
En effet, le collège Guillaume Apollinaire en a fait expérience une semaine l'année dernière. Monsieur Carré, notre principal adjoint, avait amené sa chienne une semaine au collège l'année dernière.
Il y a aussi d'autres établissements dans d'autres départements qui ont tenté l'expérience. Par exemple, en Charente-Maritime, un collège a décidé d'adopter un chien pour lutter contre le harcèlement scolaire.
En effet, un chien a été adopté à la rentrée 2024.
Les élèves auraient déclaré se sentir moins seuls et avoir de la compagnie.
Le professeur ayant mis en place ce dispositif espère que les élèves de l'établissement se sentiront plus en confiance et dénonceront plus de harcèlement. En plus d'être des compagnons fidèles, de nombreuses études scientifiques ont prouvé que vivre aux côtés des animaux améliore le bien-être général.
Il existe aussi des bienfaits physiques des animaux sur l'homme.
Un animal de compagnie a besoin régulièrement d'attention et de soins, ce qui amène les propriétaires à être plus actifs. Par exemple, avec les chiens, on doit aller les balader pour qu'ils se dépensent, au lieu de rester chez nous toute la journée. Le chien nous pousse à nous promener. Cela a donc des effets sur le cœur, la tension artérielle et le poids.
Mais ce n'est pas tout. Les animaux sont également utilisés dans les soins.
Et est-ce que vous avez déjà vu une personne en situation de handicap avec un animal ?
Oui. Alors, personne en situation de handicap, soit personne aveugle ou malvoyante, avec les chiens aveugles, hein, qui sont bien connus de la société, qui sont des chiens... La plupart du temps, des Golden Retrievers ou des Labradors qui sont éduqués et dressés pour aider les personnes malvoyantes ou aveugles. Et puis, à côté de ça, des personnes qui sont en situation de handicap physique ou mental et qui ont cet animal comme une motivation, une source de motivation pour continuer à vivre normalement.
Et est-ce que vous pensez que ça réconforte les gens d'avoir un animal près d'eux quand ils ont un handicap comme ça ?
Ah ben, tout à fait, c'est non seulement très réconfortant, mais ça leur donne une confiance en eux qu'ils n'auraient pas forcément s'ils ne l'avaient pas.
Il y a aussi l'équithérapie, une méthode de soins psychiques faite par un cheval qui est utilisée pour aider les humains. Par exemple, pour donner de l'espoir aux femmes touchées par le cancer, l'association HOP soigne les femmes victimes de cancer avec l'aide des chevaux.
L'association HOP a déjà accueilli plus de 700 femmes à travers des stages et des séjours entièrement gratuits.
Et maintenant, parlons d'un chat pas comme les autres, Oscar. Oscar était un chat qui prédisait la mort. Ce n'est bien sûr pas une méthode très scientifique, mais plutôt une expérience. Oscar vivait dans une maison de retraite aux États-Unis. Et ce chat venait voir les patients dans leur chambre le soir de leur mort pour leur apporter un dernier réconfort. Mais Oscar ne serait pas le seul, comme nous le rapporte notre vétérinaire.
Alors, je n'en ai pas entendu parler, en tout cas pas de lui directement, mais en tout cas, il y a une chose qui est retenue la plupart du temps, c'est que le chat a une sensibilité assez importante sur la fin de vie. Je sais qu'il y a des chats, principalement dans les maisons de retraite, par exemple, qui, lorsqu'ils ont un comportement assez particulier vis-à-vis de personnes qui sont en fin de vie, ont des comportements qui permettent de avoir une, entre guillemets, une anticipation sur le fait que la personne devrait ou va décéder dans les jours ou les mois à venir.
Maintenant que vous savez ce que nous apportent les animaux, adoptez-en un.
Bah bravo, bravo, merci Gabriel, merci Noéline. Avant de parler de pourquoi ce sujet, vous parlez d'adopter des animaux, ça veut dire que vous deux, vous avez vous-même adopté des animaux, Gabriel ?
Oui, moi un chien.
D'accord, Noéline ?
Moi j'ai deux chats et un chien.
Oh là, c'est une mini SPA chez toi ? D'accord, et ce sont que des animaux que tu as adoptés, enfin en tout cas que ta famille a adoptés ?
Oui, par exemple, le chien, c'était une dame qui pouvait plus s'en occuper, donc du coup, elle nous l'a donné en échange de qu'on s'occupe bien du chien.
Alors, parler des animaux, quand on en adopte, d'accord, mais pourquoi parler du bienfait que l'animal procure à l'homme ?
Bah, on en a parlé parce que, enfin, on se demandait un peu pourquoi, enfin, à quoi servaient les animaux auprès de nous, donc du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas parler de ça.
Est-ce que vous procurez quoi, vos animaux ? Gabriel ?
Du réconfort.
Ouais. Comme ça, quand tu sors du collège, que tu as envie de pleurer, tu lui fais un câlin. C'est ça ? Non, mais tu peux le dire, on est entre nous. Hein.
Oui.
Ouais. Noéline ?
Oui, moi aussi, quand ça va pas, je vais voir mon chien et après, ça va beaucoup mieux.
Ouais, c'est ce que tu expliquais, tous les bienfaits des animaux. On parlait également de Monsieur Carré qui, l'année dernière, avait apporté son animal, non pas pour une expérience, mais pour des raisons personnelles. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée, justement, à donner à Monsieur Carré ou Madame Ries d'adopter un animal pour le collège de Bouloir, comme en Charente-Maritime ?
Oui, ça serait une bonne idée, oui.
Moi aussi, je pense que c'est une bonne idée, parce que bah, ça pourrait éviter que certains élèves ils soient assez stressés en entrant dans son bureau, et voilà.
Bon, bah, si on rentre dans le bureau de la principale, en général, il y a de quoi être stressé. Hein. Bon, en plus, il y a quand même, tu parlais du nombre d'animaux adoptés par an. J'ai fait un peu de recherche et j'ai appris que l'année dernière, la SPA a publié un rapport que 200 000 chiens et chats ont été abandonnés. Malheureusement, c'est pas du tout le même cas des chats et des chiens qui ont été réadoptés derrière. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir parlé du bienfait des animaux sur l'homme. Pour la suite de l'émission, on va rester dans le domaine animalier avec trois élèves qu'on va retrouver autour du micro. Mais d'abord, votre pause musicale, c'est quoi ?
C'est « Il en faut peu pour être heureux » de Disney.
Eh ben, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Merci à tous les deux. À bientôt.
À bientôt.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature. Quelques rayons de miel et de soleil. Je dors d'ordinaire sous les frondaisons. Et toute la jungle et ma maison. Toutes les abeilles de la forêt butinent pour moi dans les bosquets. Et quand je retourne un gros caillou, je sais trouver des fourmis dessous. Essaye, c'est bon, c'est doux.
Tu manges des fourmis ?
Ah, tu peux me croire. Tu verras, c'est fameux, ça vous chatouille, hein ?
Mowgli, attention !
Il en faut vraiment peu, très peu, pour être heureux.
Mais oui !
Pour être heureux, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
prenez la vie du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché. Cueillir une banane, oui, ça se fait sans astuce. Mais c'est tout un drame, si c'est un cactus. Si vous chipez des fruits sans épines, ce n'est pas la peine de faire attention. Mais si le fruit de vos rapines est tout plein d'épines, c'est beaucoup moins bon. Alors petit, as-tu compris?
Oui, merci Balou.
Oh, c'est pas vrai. Jamais j'ai entendu de telles stupidités.
Alors viens toi, et en cadence. Oh. Hein,
il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Pour être heureux?
Pour être heureux.
Et si tu profitais de ce que tu es là-haut pour me gratter un peu l'épaule droite, hein? Gratte, oh, un poil plus bas, oui, c'est ça, c'est ça. Oh, oh que c'est bon, Mowgli, oh, que c'est bon. On va se servir d'un arbre et un gros, ça me démange trop.
Ce que t'es drôle, Balou.
Ah, c'est juste, ah oui, ah, ah ça fait du bien. Ah, encore un peu. Hop. Hey. Hey. Oh mon Dieu, ce que c'est bon de vivre. Essaie, mais détends-toi. Oui, rafraîchis-toi. Mets-toi à l'aise. Viens sur mon ventre. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. Ne gâche pas ton temps pour l'impossible. Et si tu peux le trouver, alors tant mieux pour toi.
Et tu verras que tout est résolu lorsque l'on se passe des choses superflues. Alors tu ne t'en fais plus. Il en faut vraiment peu, très peu pour être heureux.
Ah, ah j'abandonne. Espérons que ça va durer. Mowgli, si tu chantais avec moi.
Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Chassez de votre esprit tous vos soucis.
Youpi.
Prenez-la. Du bon côté, riez, sautez, dansez, chantez, et vous serez un ours très bien léché.
Ouais,
et vous serez un ours très bien léché.
On vient d'écouter à l'instant un extrait du livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux. Nous sommes toujours au collège Guillaume Apollinaire de Bouloir pour l'émission du Collège en Folie. Il y a quelques instants, nous étions avec Noéline et Gabriel qui nous parlaient du bienfait des animaux sur l'homme. Nous allons maintenant complètement changer de sujet. Quoique, on reste dans le monde animal avec Cassie. Bonjour Cassie.
Bonjour.
Avec Charlie.
Bonjour.
Et avec Maëlys.
Bonjour.
Comme chaque groupe, c'est vous qui choisissez votre thème. Et là, de quoi avez-vous décidé de parler?
Alors, aujourd'hui, nous avons décidé de parler du mythe des chats noirs.
Faites-vous partie des gens qui ont peur des chats noirs?
Est-ce que les chats noirs portent malheur ou est-ce juste de la superstition?
Est-ce que quand vous croisez un chat noir, cela vous a déjà porté malheur?
La légende du chat noir qui porte malheur remonte au Moyen-Âge, en Europe catholique. Il représentait le diable, la sorcellerie, la magie noire ou comme un présage de mort.
À cause de ces légendes, il a été redouté, chassé et tué. Au fur et à mesure que la population des chats diminuait, les souris et les rats se sont multipliés, ce qui a contribué au développement d'une grande épidémie, la peste noire, qui a causé d'innombrables morts. Mais certains pays ne redoutent pas ces chats, il est même un porte-bonheur pour certains pays.
Chez les Égyptiens, par exemple, le chat noir représente les dieux, la renaissance et la vie éternelle. En Grande-Bretagne, avoir un chat noir est signe de prospérité.
En Écosse, avoir un chat noir au pied de sa porte apporte prospérité et apporte bonne fortune. Il est considéré comme le gardien du foyer. Si on le caresse de la tête à la queue, le jour de l'an, vos souhaits se réaliseront tout au long de l'année.
En Bretagne, si un chat a un poil blanc, celui-ci deviendra un talisman pour celui qui l'arrachera.
Au Japon, le chat noir Manekineko apporte joie,
santé, prospérité. Il éloigne les esprits maléfiques et protège particulièrement les femmes. Et si vous les redoutez toujours autant, savez-vous qu'en fait, ils ne sont pas vraiment noirs ?
En effet, les chats noirs ne sont pas vraiment noirs. En fait, ils possèdent des rayures noires et marron très très foncées. Au soleil, ils peuvent prendre une couleur brune.
Et connaissez-vous des chats noirs célèbres ?
Oui, il y a Figaro dans Pinocchio et dans Minnie, ou encore Berlioz dans Les Aristochats. Il y a aussi des chats noirs bien réels. Depuis 1929, un chat noir est installé dans la résidence du Premier ministre britannique. Et entre 1929 et 1973, tous ces chats étaient des chats noirs. Peter, Munich Mauser, Nelson, etc.
Mais le chat noir est-il autant adopté dans les refuges que les autres ?
Malheureusement non. Ils sont moins adoptés par rapport au chat roux ou au chat tigré. Il est systématiquement le dernier adopté dans les refuges. Pourtant, il a été démontré qu'il était un animal de compagnie des plus normales. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas en adopter.
Est-ce que les chats noirs sont plus résistants que les autres ?
Oui, en plus, ils sont plus résistants aux maladies. Et ils vivent plus longtemps. Encore une bonne raison.
Et savez-vous, en plus, qu'il existe une journée internationale du chat noir le 17 août ?
Cette journée a été créée pour combattre les superstitions et pour encourager l'adoption des chats noirs.
Et avec un chat noir, vous pouvez prendre de magnifiques photos. Alors, comment mettre votre chat noir en valeur ?
La plupart des chats noirs ont les yeux verts, mais certains ont les yeux bleus ou jaunes. Leur pelage foncé les fait ressortir.
Pour le prendre en photo, il faut le prendre dans une pièce claire, sans mettre de flash pour ne pas avoir de reflets dans ses yeux. Il faut avoir une bonne lumière naturelle. En cas de basse lumière, utilisez une lumière rasante. Et un arrière-plan uni et flouté. Maintenant, vous ne pourrez plus dire qu'ils sont impossibles à prendre en photo. Avec ces conseils, ton chat noir sera la star de toutes tes photos.
Donc maintenant, oserez-vous en adopter un ?
Merci les filles d'avoir voulu parler des chats. Alors des chats noirs plus précisément, pourquoi choisir le thème du chat noir ?
Bah, c'était pour en savoir un peu plus sur les chats noirs.
Vous avez des animaux, Cassie ?
Oui, j'ai un chat, chez ma mère, et chez mon père, j'ai deux chats, un lapin et deux poules.
Ah oui, d'accord. Ils sont tous noirs ou non ?
Non.
tu as des chats noirs, justement ?
Non, pas des chats noirs.
Pas de chats noirs. Maëlys ?
Bah, moi, j'ai deux chats, un chien, une tortue, un lapin, mais il n'y en a aucun qui sont noirs. Donc...
Et Charlie ?
Non, j'ai qu'un chat.
Et il n'est pas noir non plus ?
Bah, il est multicolore, il est noir, ah, roux, oui. Blanc, tigré.
D'accord, il y a plusieurs couleurs chez vos animaux. Bah, merci en tout cas d'avoir voulu parler des animaux. Et c'est vrai qu'on en parlait juste avant du nombre de chats et de chiens abandonnés. D'ailleurs, on apprend dans les informations de la SPA qu'il y a de plus en plus de chats abandonnés par rapport aux chiens. Et c'est vrai que les chats noirs sont de moins en moins adoptés, alors que vous l'avez démontré, eh ben, il n'y a aucune légende sur les chats noirs. Merci à toutes les trois. On va se quitter avec une musique de votre choix. C'est quoi ?
Dance the Night de Dua Lipa.
Merci à toutes les trois. À bientôt. Au revoir.
Tonight, I can take the heat, baby. Best believe that's the moment I shine. 'Cause every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby. No chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me. Me dance, dance the night away. My heart goes.
Dance the Night, c'était Dua Lipa. On quitte le monde animal pour se poser une question que tout le monde a dû se poser au moins une fois dans sa vie. Pourquoi, je dis bien pourquoi, les profs nous donnent des devoirs ? Une question que se posent sûrement tous les élèves, mais deux en particulier, deux élèves du collège de Bouloir. Alina, bonjour.
Bonjour.
Et Lison, bonjour.
Bonjour.
Alors, une question, mais vous, vous avez décidé d'y apporter une réponse.
17h, fin de journée, goûter, 5 minutes devant la télé et il faut déjà s'y remettre. Exercice de maths, leçon d'histoire à apprendre, lecture, tout un tas de devoirs à la maison.
Aujourd'hui, on se pose donc la question que tous les élèves se posent un jour ou l'autre. Pourquoi les professeurs nous donnent-ils des devoirs ? Est-ce pour nous embêter ? Est-ce vraiment utile ? On a posé la question à plusieurs professeurs et élèves et on va partager leurs réponses avec vous.
Les devoirs, est-ce légal ?
On s'est d'abord demandé si les profs avaient le droit de nous donner du travail à la maison en plus de celui que nous faisions la journée. Eh bien, figurez-vous que d'après la loi d'orientation pour la refondation de l'école de la République datant de 2013, les élèves en primaire n'ont pas le droit d'avoir de devoirs écrits en dehors des temps scolaires.
Et cette idée ne date pas d'hier. Dès 1956, il y a eu de nombreuses circulaires sur le sujet. Une circulaire précise qu'aucun devoir écrit ne serait demandé hors de classe. À la sortie de l'école, le travail donné par les enseignants doit se limiter à un travail oral ou des leçons à apprendre. Ils peuvent donc avoir des devoirs à l'oral, comme des poésies ou des leçons à apprendre, mais pas d'exercice écrit.
Nous sommes retournés voir nos anciennes professeures des écoles à l'école du Breil-sur-Mériz pour comprendre tout ça.
Moi, je suis Valérie Minier, je suis la maîtresse des CM2 de l'école du Breil-sur-Mériz. La première loi, je crois, date de 1956, qui interdisait les leçons écrites à la maison. Mais les leçons écrites, hein.
Mais dans les faits, dès le CM2, nous en avions.
En CM2, oui, je donne des devoirs à faire à la maison à mes élèves. J'ai toujours donné des devoirs à faire à mes élèves, sachant que on est contraint, il y a des limites dans le type de leçons que l'on peut donner à nos élèves. Malgré tout, la majorité des enseignants donnent des leçons à la maison parce qu'il y a une forme de pression sociale aussi. C'est-à-dire qu'un enseignant qui ne donne pas de leçons, ben, ça semble un peu bizarre. Parce que la société est habituée à ce que, à l'école, on donne des leçons aux enfants le soir. Pourquoi moi je donne des leçons à mes élèves ? Je suis dans une année de transition. Les CM2 vont partir dans quelques mois là en sixième. Et en sixième, les leçons, qu'elles soient à l'oral ou écrites, sont autorisées. Donc nous, ici en CM2, il faut commencer à se préparer doucement à fournir un travail le soir à la maison pour réviser. Enfin voilà, il y a différents objectifs en fait, raisons pour lesquelles on donne des leçons.
Pour les plus petits, la raison est donc forcément différente et pas de devoir écrit.
C'est pour avoir un lien avec les parents, parce que les parents ne savent pas ce qu'ils font à l'école. Donc c'est pour vraiment qu'ils sachent ce qui a été travaillé voilà, à l'école. C'est juste pour ça. Après, il n'y a pas de devoir écrit.
Ces élèves doivent passer maximum 15 minutes sur leurs devoirs. Elles nous expliquent que s'ils mettent plus de temps, il faut arrêter, car ils ne sont plus concentrés. Et au collège, pas de loi les interdisant.
Je donne des devoirs à mes élèves pour qu'ils puissent continuer à travailler ce qui a été fait pendant le cours.
Je donne des devoirs à la maison à mes élèves.
Quel type de devoirs donnez-vous ?
D'apprendre leur cours, puisqu'ils ont besoin d'apprendre le cours d'une fois à l'autre. Des exercices d'application, pour vérifier si ce que j'ai fait avec eux a été suffisamment compris.
Des professeurs en donnent car ils veulent faire apprendre ou faire retenir à leurs élèves une leçon qu'ils viennent de voir en cours. Il est nécessaire de réviser à plusieurs reprises pour mémoriser. Certains professeurs donnent aussi des exercices pour voir si les élèves ont compris leur leçon. Les devoirs peuvent aussi servir à introduire un cours et Enfin, comme en primaire, ils servent aussi à développer l'autonomie. Les devoirs ne sont pas une punition.
Même si c'est parfois conflictuel à la maison, il faut comprendre une chose. Les devoirs ne sont pas censés être une punition, comme nous le rappellent nos anciennes professeurs de primaire.
Ça peut être source de conflit, hein, les leçons. Souvent, les parents m'en parlent. On a une discussion avec les parents et l'élève, et je rappelle bien à l'élève que les parents n'y sont pour rien, qu'eux sont aussi un petit peu victimes dans l'affaire, parce qu'ils doivent consacrer du temps à leur enfant, et ils ont peut-être autre chose à faire, mais bon, c'est important ce temps-là aussi, consacré à son enfant. En fait, s'il a quelque chose à demander, s'il a quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut dire ça, pas aux parents, parce que ce ne sont pas les parents qui donnent les leçons.
Mais certains professeurs choisissent aussi de ne pas donner de travail à la maison. Écoutons ces deux professeurs de collège qui ne donnent pas de devoirs.
Non, je donne pas de devoirs à la maison. Alors, je donne pas parce que les élèves qui sont déjà en difficulté à la maison, bah, c'est la même chose, mais sauf qu'ils n'ont pas toujours d'aide. Et les élèves qui y réussissent déjà, ils réussissent pareil. Donc, je trouve que ça change pas grand-chose, en fait, dans la réussite des élèves.
Non, je ne donne pas de devoirs à la maison à faire à mes élèves. Pas de devoirs écrits, mais ils ont des devoirs oraux. Ils ont des journées assez chargées. Quand ils arrivent à la maison, ils n'ont pas forcément tous la même aide de leurs parents, de leurs grands-parents, de leurs grands-frères ou grandes-sœurs. Ils n'ont pas tous la même aide pour faire les devoirs. Et les élèves qui sont déjà en difficulté la journée, ils se retrouvent aussi en difficulté le soir parce qu'ils doivent aussi faire leur exercice et s'ils n'ont pas compris et qu'ils n'ont personne.
Et qu'en pensent les principaux intéressés ?
Oui, qu'en pensent les parents ?
Mon fils a 9 ans et il est en CM1.
Pourquoi pensez-vous que les profs donnent des devoirs à la maison ?
Parce qu'ils n'ont peut-être pas assez de temps en classe pour tout leur faire réviser.
J'ai un fils de 9 ans qui est en CM1.
Pourquoi pensez-vous que les profs donnent des devoirs à la maison ?
Pour permettre de réassimiler le cours le soir pour le lendemain.
Kiméo a 13 ans, mais il est en 4e.
Pourquoi pensez-vous que les professeurs donnent des devoirs à la maison ?
Parce que sinon ils n'auraient pas le temps de finir le programme.
Mon fils a 10 ans, il est en CM1.
Pourquoi pensez-vous que les professeurs donnent des devoirs à la maison ?
Pour réassimiler les cours qu'ils ont vus pour que ça rentre.
Les parents pensent que les professeurs donnent des devoirs car sinon les professeurs n'auraient pas le temps de finir le programme scolaire. C'est aussi nécessaire pour assimiler le cours pour le lendemain. Et les élèves ?
Dans quelle classe es-tu ?
5e.
As-tu des devoirs ?
Oui.
Combien de temps mets-tu ?
Je mets entre 1h et 1h30 à peu près.
Est-ce que les devoirs t'aident à améliorer tes notes ?
Oui.
Est-ce que tu aimes les devoirs ?
Non, pas particulièrement.
Je suis en 5e.
As-tu des devoirs ?
Oui.
Combien de temps mets-tu à les faire ?
30 minutes, généralement, ouais, 30 minutes.
Ouais, est-ce que les devoirs t'aident à améliorer tes notes ?
Oui et non. Je pense que dans certaines manières, dans cette matière, pardon, oui, mais sinon, non, juste suivre les cours, pour moi, ça me suffit.
Est-ce que t'aimes faire les devoirs ?
Ça dépend lesquels. Quand c'est des exercices de maths, oui. Quand c'est des exercices d'anglais, non.
En 6e.
As-tu tes devoirs ?
Oui.
Combien de temps mets-tu à faire tes devoirs ?
20 minutes.
Est-ce que les devoirs t'aident à améliorer tes notes ?
Oui.
Je suis en classe de 5e. As-tu tes devoirs ?
Oui, tous les jours.
Combien de temps mets-tu à les faire ?
Entre une demi-heure et une heure.
Est-ce que les devoirs t'aident à améliorer tes notes ?
Oui.
Aimes-tu les devoirs ?
Bof.
En quelle classe es-tu ?
4e.
As-tu des devoirs ?
Ouais, beaucoup.
Combien de temps mets-tu à les faire ?
Je les fais pas, mais sinon une heure.
Est-ce que tes devoirs t'aident à améliorer tes notes ?
Non.
Je suis en CM1.
As-tu des devoirs ?
Oui.
Combien de temps mets-tu à faire tes devoirs ?
En moyenne une heure.
Penses-tu que les devoirs t'aident à améliorer tes difficultés ?
Un peu.
En moyenne, les élèves passent une heure sur leurs devoirs avec l'aide des parents. Une maman qui a un enfant en CM1 nous dit qu'il a des dictées à apprendre, de la lecture et des révisions de cours.
Alors, faut-il garder les devoirs ?
Dans les établissements scolaires, il y a des aides qui sont mises en place pour les devoirs. En 6e, on a un créneau devoirs faits avec un adulte qui nous aide. Au collège de Bouloir, pour aider les élèves qui en ont besoin, il y a aussi le BAR, le bureau d'aide régulier.
Le BAR a été mis en place pour que les élèves, sur leur temps libre, puissent aller dans une salle qui est dédiée à l'aide aux devoirs, avec un adulte. Les élèves ont comme ça moins de devoirs quand ils rentrent chez eux.
Même si on a des aides, nous on pense qu'il faut les garder, mais pas tous. Au collège, on a plusieurs professeurs. Et comme ils nous en donnent tous plusieurs, on a beaucoup de devoirs. Alors vivement les vacances qu'on n'ait plus de devoirs à faire.
Oui, bah c'est bientôt en plus les vacances, hein, si je dis pas de bêtises. Bah, bravo les filles, pour bravo Alina, bravo Lison. Alors, comme je disais au début en introduction, c'est une question qu'on se pose souvent quand on est au collège, quand on est en primaire. Pourquoi vous avez décidé vraiment de développer ce sujet ?
Bah, pour comprendre pourquoi les professeurs nous en donnent.
Alors, il y a des élèves du collège. À la question, j'ai bien aimé surtout l'avant-dernière réponse, à la question combien de temps mettez-vous pour travailler ? Donc, il y en a qui ne travaillent pas et finalement, ces notes ne changent pas. Et les autres qui travaillent, leurs notes changent. Vous pensez que c'est donc nécessaire d'avoir du travail à faire à la maison ?
Oui.
Je vais continuer justement sur les questions que vous avez posées. Vous êtes donc toutes les deux en cinquième.
Oui.
Vos profs vous donnent du travail ?
Oui.
Combien de temps vous mettez pour faire vos leçons, vous ?
Entre une heure et demie.
Entre 15 minutes et 30 minutes.
Merci Alina et Lison. On va changer de sujet dans un instant, mais pour le moment, c'est l'heure de votre pause musicale. On va écouter quoi ?
Ninao de Gims.
Merci à toutes les deux. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Dès que j'arrive, ça regarde de travers, capuché parce que je suis trop cramé. J'avance avec équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et trier plus le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao. J'ai fait des choses regrettables, c'est ça, t'es toujours en pétard. T'es mal équipe, redoutable, je connais la nuit comme les guettards. Passe la douanière, rien à regarder, de toute façon je suis booké sur toute l'année. On s'est vu le temps d'une soirée, encore un petit cœur à réparer. Mon amour, je vais rentrer tard et trier plus le ciel, les faits noirs. Ils font tous des petits pas dès qu'ils aperçoivent la guitare. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao. Ani nanani ninao, tani nani nani nao.
Gims à l'instant sur Nitorinc, Ninao. On se retrouve autour du micro d'Ornithorynque pour cette émission Le Collège en Folie, enregistré dans le CDI du Collège Guillaume Apollinaire de Bouloir, avec Luca. Bonjour Luca.
Bonjour.
Et Evan, bonjour.
Bonjour.
Eh ben les gars, c'est à vous.
Est-ce que vous êtes comme nous, fans de jeux vidéo ? Le jeu vidéo est le loisir numérique préféré des Français, et les jeux ne sont pas réservés qu'aux adolescents. Parmi les joueurs, 68% sont des adultes.
Les jeux vidéo ne datent pas d'aujourd'hui. Le premier jeu est sorti aux États-Unis en 1947. Et depuis, il y a eu de nombreux jeux et certains ont véritablement marqué l'histoire des jeux vidéo. On commence par Pac-Man. Un petit rond jaune qui mange des boules en fuyant des fantômes. Pac-Man est un jeu d'arcade dérivé de Pong, sorti en 1972. Pac-Man, c'est un concept innovant centré sur la stratégie et l'évasion.
Quelques années plus tard, un autre héros arrive, Mario.
It's me, Mario!
Tout le monde connaît ce plombier avec ses champignons. Lui, il saute, il court, il casse des briques, et ils traversent des mondes incroyables pour sauver la princesse Peach. Et on retrouve différents Mario, Mario Bros, Super Mario, Mario à la neige, Mario dans des labyrinthes. En fait, on retrouve Mario dans plein d'aventures différentes.
Mario a été créé en 1981 et il a marqué l'histoire des jeux vidéo car il a un design attachant. C'est un jeu innovant et accessible. Dans ce jeu, on découvre aussi l'influence de Nintendo. On change d'ambiance avec Grand Theft Auto, plus connu sous le nom de GTA. GTA est un jeu où l'on peut conduire des véhicules, faire des missions, travailler, jouer en ligne avec d'autres personnes.
Il a été créé en 1997, créé un nouveau genre, l'Open World. C'est un jeu réservé aux plus de 18 ans et il fait beaucoup parler de lui pour sa violence. Chaque jeu permet en effet d'incarner un criminel évoluant dans une métropole ou même parfois dans un état. Et dans la même catégorie des jeux réalistes, il y a aussi Call of Duty. Call of Duty est un jeu de guerre qui peut se jouer en ligne et qui se joue à la première personne, c'est-à-dire qu'on voit comme nous. On y incarne des soldats, on suit des missions militaires et on peut choisir nos armes.
Call of Duty a été créé en 2003. Il redéfinit le genre de jeu de tir à la première personne, FPS, mais a également évolué pour devenir un phénomène culturel mondial. Mais là aussi, le jeu est déconseillé aux plus jeunes car il peut être stressant et très prenant. Mais il y a d'autres jeux très différents. Il y a aussi Minecraft. Minecraft est un jeu où l'on peut jouer à la troisième personne comme à la première personne. On peut construire des maisons et d'autres choses.
Minecraft, c'est un peu comme des Lego virtuels. Il a été créé en 2009. C'est aujourd'hui le jeu le plus vendu de l'histoire avec plus de 300 millions d'exemplaires vendus.
Alors, on le voit bien, les jeux vidéo sont tous très différents. Ce qui est bien avec les jeux vidéo, c'est que l'on peut y jouer à tout âge et avec sa personnalité. Car il y a différents jeux avec des sujets différents.
Quel jeu vidéo vous a le plus marqué ?
Récemment, sur PlayStation, Red Dead Redemption 2.
D'accord. Et pourquoi ?
Parce que l'univers, il est incroyable. L'histoire, elle est très belle comme un film. Puis les personnages sont intéressants.
Franchement, je dirais Roblox. Parce que Roblox, il y a plein de jeux dedans. Tu peux jouer à tout, n'importe comment, quand et avec tes amis en ligne.
FC25, Jurassic World Lego.
Et pourquoi ?
Parce que ça a été mon tout premier jeu que j'ai eu, que j'ai joué avec mon papa, qu'on a fini. Parce que c'est un jeu de gestion et j'adore ça, les jeux comme ça.
Alors, moi, j'ai grandi en commençant à jouer sur la PlayStation 2. Donc, j'ai beaucoup joué avec mon petit frère. Et on était très fans tous les deux de la franchise Lego. Donc on a joué au Lego Star Wars, au Lego Batman, au Lego Indiana Jones, Lego Pirates des Caraïbes, Lego Harry Potter.
Pourquoi ça vous a marqué ?
C'était des moments que je passais avec mon petit frère à jouer aux jeux vidéo. Après j'ai eu la Wii, et donc là j'ai beaucoup joué à Mario Kart, encore avec mon petit frère.
Oui, c'est Luigi's Mansion 3 sur Nintendo Switch.
Et pourquoi ?
J'adore son décor, son univers, l'histoire, tout. Après j'aime beaucoup aussi la série Luigi's Mansion, et puis c'est le premier jeu que j'ai sur la Switch.
Pour moi c'est Pac-Man. Parce que c'est le premier jeu qu'on a eu à la maison. On avait eu la Sega en cadeau et du coup il y avait Pac-Man avec. Donc c'est un souvenir d'enfance.
Assassin's Creed 4.
Pourquoi ?
Liberté, l'exploration, le fait de pouvoir découvrir un environnement qu'on voit pas forcément.
Les jeux vidéo ne sont jamais démodés et ça c'est cool. Comme ça on peut s'amuser avec des jeux différents et on peut partager les jeux. Les jeux vidéo ce n'est pas juste regarder un écran, jouer, cela peut être une passion. Et il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo.
C'est un loisir comme les autres. Et toute personne peut jouer aux jeux vidéo. C'est un apprentissage. Il y a des niveaux différents pour chaque jeu. On peut y jouer simplement en suivant les choses à faire, ou en explorant, ou encore en faisant ce que l'on veut.
Le jeu vidéo, c'est aussi un moyen de ne plus penser aux problèmes de tous les jours. Le travail, le collège, etc. Alors maintenant, à vous de jouer.
Merci Evan, merci Lucas pour nous avoir parlé justement de jeux vidéo. Vous êtes d'ailleurs, vous deux, des joueurs, des gamers, comme on dit ?
Oui.
Beaucoup ? Vous passez beaucoup de temps à jouer par jour ? Alors, on ne peut pas parler de par semaine, mais plutôt par jour.
Moi, ça dépend des jours.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, par exemple, le week-end, je vais plus jouer et les vacances aussi. Mmh. Et la semaine, je vais moins jouer, parce que ça passe vite. En fait.
Ouais. Mmh. Evan ?
Moi, pareil aussi. Mais je joue aussi quand même beaucoup.
Vous jouez à quoi, principalement ?
Moi, là, en ce moment, c'est Ark. C'est un jeu de survie où t'es tout seul sur une île
et il faut survivre au milieu des dinosaures.
D'accord, ok. Et Evan?
Bah moi, je joue à tout, mais en ce moment, c'est sur Call of.
Vous jouez sur quel support, PC ou console?
Moi, c'est PC.
Ouais, Evan?
Moi, c'est console.
Il y a aussi, on a vu l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on avait parlé des jeux vidéo comme à peu près chaque année. On a vu l'année dernière un élève qui avait en mémoire de préparer et de développer des jeux. Est-ce que ça vous est pas venu à l'idée de développer votre propre jeu?
Alors, moi aussi sur Roblox, parce qu'il y a un éditeur pour ça.
Mmh.
Donc c'est très facile de créer un jeu Roblox, vu qu'il y a toutes les aides et tout. Alors, j'ai essayé et c'est encore en construction pour l'instant.
Ouais, et puis, bientôt en phase test. Et puis après, tu pourras le vendre comme ça.
Bah, pas forcément le vendre, en fait, vu que c'est sur Roblox. En fait, c'est une grosse plateforme.
D'accord. Et Evan?
Non, moi, ça ne m'est jamais venu à l'idée. Mais vu que j'aime bien ça, ça pourrait peut-être se faire un jour.
Voilà, si un jour, tu as une idée d'un jeu et vous vous mettez en relation, hein, je pense en plus vous faites partie de la même classe, vous vous mettez en relation et puis vous faites votre propre jeu à tous les deux. Bon, merci en tout cas à nos deux gamers d'avoir été avec nous. On va se quitter avec votre pause musicale. On écoute quoi?
Monaco.
Eh ben, c'est parti. Et merci à vous deux et à bientôt. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Chanel bag, je lui dis viens voir Coco. Tu m'as reconnu au feu rouge, bleu quand t'es dans le Merco. Si tu nous invites, bien sûr on vient, ramène ta clique. T'inquiète, on tient, on bloque tout le vip. On leur laisse l'air, on taille pas de pipe. Tu le sais bien. Combien tu ne comprends pas, mais c'est pas. On agit direct, maïté, on voit pas trop parler. Nous c'est le flingueur, baby. On peut arriver, de qui la dent voulio. Dans sa zoule, dans sa amigos. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Coco Chanel, on va foutre le bordel. Coco Chanel. C'est pas. On agit direct, Mighty, on va pas trop parler. Nous c'est le flingueur, baby. On peut arriver, de qui la dent roule. Dans sa zone, dans sa amigos. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Parle-moi d'oser, y'a que ça qui tourne dans ma tête. Coco Chanel, on va foutre le bordel.
Aujourd'hui, nous sommes au collège Guillaume Apollinaire de Bouloire pour l'émission Le Collège en Folie. On a parlé de jeux vidéo à l'instant. Là, on va parler de littérature, mais pas n'importe quelle littérature.
Eh bien, nous sommes présents avec vous aujourd'hui pour vous faire part d'une nouvelle chronique sur le livre le plus vendu aujourd'hui, le manga. Il est devenu un incontournable en France. C'est aujourd'hui le livre le plus vendu devant les bandes dessinées. Pour vous, nous avons fait un sondage au collège pour connaître les mangas les plus populaires chez les adolescents. On vous dit tout, mais avant ça, nous allons vous présenter le manga.
Ruben, peux-tu nous donner quelques précisions sur l'histoire du manga et ses particularités ?
Le manga se lit à l'envers, de droite à gauche, à l'envers de la BD classique.
Il est apparu en France dans les années 1970, mais le manga n'était pas très connu à l'époque. À la fin des années 1970, par la diffusion des animés, les mangas apparaissent sur les écrans de télévision français, avec des séries comme Goldorak, Candy, Ulysse 31 et Albator. Mais le manga explose surtout dans les années 1990 chez les jeunes avec Akira, notamment de l'auteur Katsuhiro. En 1993, on découvre la série Dragon Ball en manga. C'est comme ça que le manga a commencé.
Le Club Dorothée a permis aussi l'émergence de la culture manga en France. Des séries comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac ou Nicky Larson deviennent cultes. En France, une bande dessinée sur deux provient de l'archipel nippon, mais le manga n'est pas réservé qu'aux éditeurs japonais. Il y a aussi des maisons d'édition françaises comme les éditions de la Nouvelle Hydre, situées chez nous au Mans. Et pourquoi le manga est en noir et blanc, Ruben ?
Le manga est en noir et blanc pour des raisons économiques et esthétiques tout simplement. C'est moins cher d'imprimer en noir et blanc.
Merci Ruben. Mais nous, ce que l'on veut, c'est connaître quels sont les plus lus chez les jeunes.
Pour cela, nous avons fait un sondage auprès de 50 collégiens.
En top 3, nous avons One Piece d'Eiichiro Oda. On suit l'histoire d'un jeune qui rêve de devenir le roi des pirates à travers une longue aventure. À travers cette aventure, il doit trouver un équipage. Et pour ça, Luffy devra voyager sur Grand Line, une mer légendaire, avec ses amis. Aujourd'hui, on compte 108 tomes et l'histoire n'est toujours pas terminée. Ce manga fait rire et pleurer en y ajoutant un brin de suspense. C'est un shonen.
Mais Ruben, c'est quoi un shonen ?
Le shonen, c'est une histoire pour les jeunes en général. Ce manga n'est pas très cher et si vous avez du temps libre, lisez-le. Vous savez quoi lire maintenant ?
En 2, Naruto. C'est l'histoire d'un enfant qui est orphelin et qui veut devenir Hokage, le ninja le plus puissant de... Waouh ! Le ninja le plus puissant du village. Il se fait beaucoup d'amis et arrive à devenir l'un des plus grands Hokage de l'époque. Ce manga est sorti en 2002 et son auteur est Masashi Kishimoto. Il y a 72 tomes pour faire sa collection en entier. Ce manga est aujourd'hui aussi, Ce manga est aussi intéressant que séduisant car son univers est captivant grâce à ses personnages profonds et ses thèmes universels qui continuent de toucher des générations de lecteurs. Donc autant vous dire que vous avez de quoi faire en ce qui concerne ce manga.
Et en premier, Demon Slayer. C'est l'histoire d'un garçon nommé Tanjiro Kamado. Il retrouve sa famille morte et sa petite sœur cadette Nezuko qui a été transformée en démon. Ils deviennent pourfendeurs. Et pour ceux qui ne connaissent pas les pourfendeurs, ce sont des chasseurs de démons qui sont là pour tuer le roi des démons nommé Muzan. En cours de route, il rencontre deux garçons avec qui il va tisser des liens d'amitié. Il va aussi rencontrer les piliers. Dans cette histoire, les piliers sont les pourfendeurs les plus haut gradés qui sont beaucoup plus forts qu'un pourfendeur normal. Ils sont 9, 7 garçons et 2 filles, écrit par Koharu Gotoge en 2016. Il compte aujourd'hui 23 tomes. Si vous voulez le lire, vous avez de la chance, il est fini.
Et si vous tenez à ce que le manga devienne votre prochain livre préféré, nous vous conseillons de vous diriger vers 3 magasins différents qui se trouvent au Mans. Il s'agit de Manga Pop, la librairie Bulle ainsi que la Fnac. Par contre, pour ceux se trouvant dans la zone de Bouloire, vous pouvez aussi vous rendre à la médiathèque située au théâtre Épidore. Vous pouvez aussi écouter les podcasts. On rappelle qu'il s'agit d'un fichier audio diffusé sur Internet, sur les mangas et notamment ceux de France Inter avec celui intitulé « Le manga expliqué aux parents ». Ces podcasts durent 52 minutes. Et c'est donc sur ça que nous finissons notre chronique. Merci d'avoir suivi et écouté cette chronique sur les mangas en espérant que cela vous a passionné autant que nous. Au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Ben merci, merci à tous les trois. Pourquoi avoir voulu parler du manga après voilà, du livre, du manga. Vous en lisez beaucoup, j'imagine ?
Oui. Oui. En fait, on a voulu parler de ça parce que, du coup, avec Ruben, c'est, et Elias aussi, c'est un peu, pas notre passion non plus, mais on aime bien en lire et, du coup, on a trouvé que c'était sympa de faire un truc sur ça.
Depuis combien de temps vous lisez du manga, Ruben ?
Moi, ça fait 1 ou 2 ans.
Elias ?
Ah, moi, quand on m'a dit, le manga, c'est bien, je n'y croyais pas. Et puis après, j'ai lu. Et puis là, ça fait 2 mois, j'en lis quelques-uns.
Ah oui, en fait, depuis la création de cette rubrique, tu t'es dit, je vais me mettre au manga.
Je me voyais mal faire une rubrique en sachant même pas les histoires qu'il y a dans le manga, quoi.
Tu lisais avant ? Tu lisais d'autres livres, des BD avant de lire du manga ?
Ouais.
D'accord. Et Isia ?
Moi, je lis des mangas depuis que je suis en CM1, donc ça fait un peu longtemps quand même.
D'accord, ok. Mis à part ces trois références du manga, on parlait de One Piece, on parlait de Naruto et puis de Demon Slayer, j'imagine qu'il en existe des milliers.
Oui.
Vous lisez quoi, vous, principalement ? On va commencer par Isia.
Moi, je lis, en ce moment, je suis en train de lire Demon Slayer et l'Attaque des Titans.
D'accord. Ouais, parce que là, en fait, tu disais Demon Slayer, l'histoire est finie, donc tu peux avoir tous les livres. Et tu les as tous ?
Non, je ne les ai pas tous, mais il y a des fois, je les emprunte à une bibliothèque et du coup, à l'Épidore.
D'accord. Ruben, tu lis quoi en ce moment ?
Moi, en ce moment, je lis Demon Slayer aussi et Spike's Family.
D'accord. Tu risques pas de mélanger les deux histoires quand tu...
Non, vraiment pas. C'est... Non.
D'accord. Et donc, Elias, novice dans le monde du manga.
Coup, la même chose que Ruben.
Ouais.
Les deux, Demon Slayer et Spike's Family.
D'accord. Ok. En tout cas, merci à vous trois pour cette rubrique. On va voyager dans un instant, pas dans le monde du manga, mais on va voyager avec les deux derniers élèves de la classe de 5e D du collège de Bouloir. Et on va se quitter avec une musique que vous avez choisie, tous les trois.
Oui, c'est Kizuna no Kiseki de
voilà.
The Man with a Mission.
Eh ben merci à vous trois et puis à bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. どこへ向かう月明かりだけがただ一つの道しるべ痛みも悲しみも拭いきれずされどこの胸の炎は消させない我がために僕たちはこの思いを貫いて闇を裂き火の下で光刺す日まで時を奪われた心に宿した日を舞い上げまと今夜明けの向こう側へ君がいるこの世界もう一度明日へ生まれ若い命果てよとも繋いでいこう絆が紡いで生まれた奇跡を Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission, je dirais même plus, à la fin de notre voyage organisé par les élèves de 5e D du collège de Bouloir. Nos derniers chroniqueurs, c'est un peu notre agence de voyage. Allez, on va dire ça comme ça. Avec notre steward Clovis, bonjour.
Bonjour.
Et notre hôtesse de l'air, Colombe.
Bonjour.
Bon, on va voyager. Allez, vous allez nous parler de quoi ?
De la Thaïlande. Aujourd'hui, on va vous faire voyager à l'autre bout du monde et vous faire découvrir la Thaïlande.
Embarquons pour 11 heures de vol, direction le sud-est de l'Asie, autour de l'océan Indien.
Sur un pays qui est presque une île, l'eau turquoise envahit les côtes des plages paradisiaques au sud. La Thaïlande a plus de 1430 îles au large de ses côtes.
De l'autre côté, le pays partage ses frontières avec le Cambodge, le Laos et la Birmanie. On y trouve une biodiversité dense, même immense, avec des animaux extraordinaires comme des éléphants, des tigres, des singes ou encore des varans.
On a aussi des cascades comme celle d'Erawan ou de Maya, tout au nord de la Thaïlande. Le nord est surtout une région montagneuse plus fraîche. Mais est-ce que les Biluriens en savent autant sur ce pays si éloigné ? Connaissent-ils ce pays extraordinaire ?
C'est ce qu'on leur a demandé.
Si on vous dit Thaïlande, quel est le premier mot qui vous vient ?
Les statues d'or.
Et pourquoi ce mot ?
Parce que c'est ce qu'il y a de plus beau à voir, je pense, en Thaïlande, les temples et tout.
Temples ?
Et pourquoi ?
Parce que pour moi, la Thaïlande, c'est une culture bouddhiste et avec beaucoup de temples.
Et oui, 95% de la population est bouddhiste.
Quand les Thaïlandais pratiquent le bouddhisme, ils incluent la méditation et la vénération des moines.
Et attention, tenez-vous bien, il y a environ 32 000 temples bouddhistes en Thaïlande.
Parmi ces 32 000 temples, les plus beaux à voir sous nous sont Wat Phra Kwen, qui abrite le Bouddha d'émeraude, symbole de la Thaïlande, et le temple Golden, qui héberge un énorme Bouddha en or.
Mais les petits temples traditionnels des petits villages sont tout aussi magnifiques, avec leur charme traditionnel. Ensuite, conscient sur notre voyage au bout du monde avec... Quand vous dites Thaïlande, quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit ?
Rizière.
Et pourquoi ?
Pour moi, la Thaïlande fait partie des pays où il y a une grande culture au niveau du riz. Et du coup, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est rizière.
Les rizières ? Mais c'est quoi des rizières ?
Les rizières sont des champs de riz, comme leur nom l'indique.
Les rizières sont des étendues d'eau formant des escaliers de plusieurs étages. C'est d'ailleurs le sixième pays producteur de riz sur une centaine, la Chine étant le premier.
Si on vous dit Thaïlande, quel est le premier mot qui vous vient ?
Les éléphants et le paysage.
Et pourquoi ces mots ?
Parce que les éléphants, c'est un animal emblématique de la Thaïlande. C'est un peu l'animal représentatif de ce pays. Et les paysages, parce que y a de magnifiques paysages avec la mer, tout ça, la plage, enfin voilà.
Les paysages de la Thaïlande sont à couper le souffle. Des plages mythiques, des forêts et des rizières à perte de vue.
Des maisons traditionnelles, des plantes que l'on trouve nulle part ailleurs en France, des fleurs d'une beauté rare.
Difficile de les décrire, mais croyez-moi, elles sont magnifiques, comme le monoï, le lotus, l'orchidée ou encore le jasmin.
C'est assez dur de vous décrire les paysages, car ils sont incroyables. Il faut vraiment les voir de ses propres yeux. Mais qu'est-ce qui a marqué les Bulgariens également ?
Eh bien, les animaux, car la Thaïlande est aussi riche en flore qu'en faune, avec ses nombreux mammifères, reptiles et oiseaux de toutes sortes.
Trois animaux représentant la Thaïlande, l'éléphant, le tigre et le singe. Nous allons commencer par parler des éléphants, véritable emblème du pays.
En Thaïlande, il y a plus de 3000 éléphants sauvages. Malheureusement, plus de 4400 sont eux en captivité.
En 1804, en Thaïlande, une loi a été établie pour l'arrêt de maltraitance sur les animaux. Si cette loi est enfreinte, les personnes risquent jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et une amende sévère, entre 25 000 et 30 000 euros. Pour beaucoup de voyageurs, il est inconcevable de visiter la Thaïlande sans avoir vu d'éléphants.
Mais plutôt que des spectacles d'éléphants, privilégiez les refuges spécialisés pour les animaux sauvages ou les zoos où leur confort est au maximum. Les refuges proposent plusieurs alternatives plus respectueuses des animaux, comme les doucher, leur donner de la nourriture ou faire une randonnée avec eux tout en les respectant.
Maintenant, nous allons parler des tigres. La Thaïlande compte seulement 189 tigres sauvages et 2000 tigres en captivité.
Dans certains zoos, les tigres sont enfermés dans des bâtiments et servent qu'à une chose, gagner des followers sur les réseaux à travers des photos.
C'est horrible de voir des gens peu se soucier d'un animal sauvage.
Et dans la nature, le tigre est en diminution constante à cause de la chasse illégale et de la perte de leur habitat naturel dû à la déforestation.
Le dernier animal emblématique de la Thaïlande est le singe.
Et pour cela, partons à Lopburi.
Chaque année à Lopburi, une petite ville remplie de singes se déroule un banquet en leur honneur.
Depuis 1989, les habitants de la petite ville font un festival pour les petits singes. Ils préparent des fruits et des gâteaux que les singes apprécient pour leur rendre hommage.
Mais cette ville aux singes, très touristique, n'a pas que du bon, malheureusement.
Oui, lors de la Covid, les primates se sont retrouvés seuls dans une ville immense pour eux.
Pendant la pandémie, les singes affamés ont cherché de la nourriture partout dans la ville.
À la sortie du confinement, toute la confiance que les petits singes avaient avec les humains avait disparu. Les habitants ont retrouvé la ville complètement saccagée, des cinémas détruits, des temples occupés par les singes.
Il est maintenant impossible de leur redonner confiance en nous.
Leur instinct animal a repris le dessus. Petit conseil, si vous voulez visiter cette ville, attention à vos affaires personnelles et à votre nourriture. Les Biluriens nous décrivent ce pays comme une destination de rêve.
Mais est-ce que la Thaïlande est une destination touristique pour eux ?
Voici leur réponse.
Et est-ce que vous trouvez ce pays attractif ?
Oui.
Et pourquoi ?
Parce que c'est un beau pays avec une belle culture, ils ont plusieurs choses, ils ont le bouddhisme, ils ont l'art du combat aussi qui est sympathique, puis ils ont des beaux paysages.
Parce que c'est coloré, vivant, des bonnes odeurs.
Parce que c'est riche, c'est un pays luxuriant, tant au niveau des animaux que de la végétation, que de la culture, que de la nourriture.
Oui, je pense que c'est un très beau pays, il faut aller le visiter.
C'est magnifique, il y a pas mal de sites à visiter. Je ne me rappelle plus du tout des noms, mais c'est vraiment très touristique. Il y a des choses à voir en Thaïlande.
Parce qu'il y a beaucoup d'îles, il y a beaucoup de choses à voir. Notamment la cité des éléphants, il y a des... Bangkok, c'est très riche, c'est une autre façon de vivre.
Eh bien oui, la Thaïlande est une des premières destinations des voyageurs quand ils veulent aller en Asie. Car la Thaïlande est un pays très peu cher, et comme nous l'a dit Clovis au début, les paysages sont à couper le souffle. C'est aussi découvrir une toute autre culture. Mais surtout, les habitants sont des anges. Si vous ne savez pas où aller pour les vacances, il y a la Thaïlande.
Et voilà, maintenant vous savez tout, ou presque tout sur la Thaïlande.
Arrivée prévue à 17h30 pour la France. J'espère que vous avez passé un bon voyage en notre compagnie. Au revoir.
Non mais Colombe, tu n'es pas hôtesse de l'air.
Ah oui, pardon, je voulais juste mettre un peu d'ambiance dans notre chronique. Sinon, tu n'avais pas une dernière chose à dire ?
C'est chose faite. Mais oui, on voulait remercier Madame Billon et Madame Tarpereau de nous avoir supportés et bien aidés toute l'année.
Et merci infiniment, Teddy, de nous avoir donné des conseils de professionnels.
Et comme on dit en thaïlandais, kon ob lala kon. Merci et au revoir.
Merci Clovis et Colombe de nous avoir fait voyager. Merci aussi pour ce petit message. Pourquoi vous avez choisi la Thaïlande ?
Parce que moi, j'adore voyager et Clovis aime le voyage aussi. Et du coup, on savait pas trop quoi choisir comme pays. Et
c'était obligatoirement un voyage.
Oui.
D'accord.
Bah, en fait, on a changé d'idée en cours de route, on va dire, entre guillemets.
D'accord. Parce qu'au début, c'était prévu d'aller où? À Roupérou-le-Coquet?
Ah non, c'était...
C'est un autre pays. Hein, ouais.
C'était les 5 premiers pays du monde les plus beaux à voir. Sauf que bah, c'était un peu trop compliqué comme sujet. Et du coup, Clovis et moi, on a décidé de faire la Thaïlande. Parce que j'aime bien ce pays, comme j'y ai déjà été.
Ok.
Et Clovis, quand je lui raconte ce voyage, ça le fait un peu rêver. Donc,
D'accord. Donc Clovis, tu n'as jamais été en Thaïlande?
Non, jamais été en Thaïlande.
Est-ce que tu as été dans un autre pays que notre beau pays de la France?
Oui, au Portugal.
D'accord. Et on aurait pu faire une chronique sur le Portugal. La prochaine fois, je vous veux à la radio pour faire une chronique sur le Portugal. Ok?
Ok.
Alors, tu disais, Colombe, que tu as déjà été en Thaïlande. Ça te donne envie d'y retourner?
Oui.
Tu étais combien de temps?
J'ai été 2 semaines et demie.
Ah oui, donc tu as eu le temps de visiter beaucoup de choses?
Oui, mais on n'a fait que le nord de la Thaïlande, pas le sud.
Donc la prochaine fois, tu y retournes pour le sud?
Ok, ouais.
Elle me dit ok, comme si c'était moi qui avais organisé le voyage avec Clovis et Madame Billon.
Si c'est lui qui paye les billets d'avion.
Alors, apparemment, tu disais que c'était pas trop excessif pour aller en Thaïlande?
Le voyage, non. Ça, bah si, le voyage, si. Mais après, tout ce qui est dans la ville, etc., c'est très peu cher. C'est vraiment beaucoup moins cher que la France.
Ouais.
Mais j'ai fait plusieurs pays et souvent, c'est la France qui est beaucoup plus chère que d'autres pays.
Clovis, cette envie donc d'aller un jour en Thaïlande?
Oui.
T'as essayé de convaincre
Mes parents, oui,
ouais.
Mais ils veulent pas.
Bon, bah, va falloir qu'on envoie Colombe qui refasse l'exposé devant tes parents pour leur donner envie de partir en Thaïlande. Et puis peut-être que vous partirez ensemble. Merci en tout cas à tous les deux de nous avoir fait voyager pour cette dernière rubrique. On se quitte avec le titre que vous avez choisi. C'est quoi?
I Follow River.
Par Tiesto. C'est avec ça qu'on se quitte. Merci à tous les deux.
Merci.
Au revoir.
Merci.
Tiesto sur Ornithorynque. Bienvenue à toutes et à tous sur l'antenne de votre radio locale. Aujourd'hui, nous étions au collège Guillaume Apollinaire pour l'émission Le Collège en Folie. Et comme chaque émission, c'est l'heure du bilan. Le bilan de cette émission constitué de rubriques variées, mais surtout, et là il faut le souligner, préparé en intégralité par les 17 élèves de la classe de 5e D du collège. Les thèmes qui ont été choisis étaient les tiny house, les bienfaits des animaux sur l'homme, la légende des chats noirs, la question pourquoi les professeurs donnent-ils des devoirs, les jeux vidéo, les mangas préférés des ados et à l'instant, eh bien, on parlait de Thaïlande. Les 17 élèves étaient sous la direction principalement de deux professeurs du collège qui sont avec nous. Solène Billon, professeure documentaliste, bonjour.
Bonjour.
Nous avions également Hélène Terperot, professeure d'histoire-géographie, bonjour.
Bonjour.
Et avec nous, Sylvain Goilard, professeur d'art plastique, qui nous a rejoint. Bonjour Sylvain.
Bonjour Teddy.
Alors, on va parler évidemment de tous ces élèves. Pour vous, Madame Terperot, c'était une première, oui. Puisque l'emploi du temps de Monsieur Goilard ne lui permettait plus d'assister à cette préparation. Pour vous, c'était une première. Votre ressenti ?
Ah, j'étais un peu stressée, j'avoue. En arrivant tout à l'heure, j'en ai pas large.
Bon, ils vous ont pas briefé, les deux autres professeurs, pour vous dire que ça va bien se passer?
Mais si, ils vendent du rêve, vous savez.
Bon, une année de travail quand même, oui. Avec 17 élèves. Madame Billon, cette année, 17, hein. Si pour Madame Terperot, tout va bien, tout s'est bien passé, le nombre d'élèves change d'année en année. On souligne quand même que le médian au milieu scolaire, ça amène beaucoup de choses aux élèves, ça leur offre l'occasion d'acquérir une certaine culture et surtout de prendre la parole sans se faire juger. Est-ce que vous avez remarqué des changements entre le début et la fin de l'année pour ces 17 élèves ?
Ah, c'est pour moi la question.
Comme vous voulez, pour toutes les deux.
Ah, moi, oui, j'ai remarqué vraiment, puisque c'est des élèves pour la plupart que j'avais déjà en 6e, qui se sont révélés en 5e. Même si je ne les ai pas en classe, la classe média, ça m'a permis de les suivre. Et en fait, de voir la progression, notamment dans la discrétion, la timidité. Et en fait, certaines élèves se sont vraiment révélées.
Madame Billon.
Oui, tout à fait. En fait, on a vu une vraie évolution. Et puis, malgré certaines difficultés qu'ils ont pu connaître, ils n'ont pas lâché, en fait. Et ça, c'est chouette et il faut le souligner.
On rappelle que, alors, vous ne les avez qu'une heure par semaine.
Oui. Oui.
Voilà, pour préparer tout ça. Alors, cette année, vous aviez le meilleur créneau, c'est-à-dire le vendredi soir, juste avant de partir en week-end. Mmh. C'est assez compliqué. Mais par contre, le défi, est-ce qu'il est relevé ?
Il est entièrement relevé, là, je crois.
Ah oui. Ah, vous avez vu. Hein.
Ah bah oui.
C'est des chroniques complètes, ouais. Documentées.
Et c'est surtout des chroniques qu'ils choisissent eux-mêmes. Le thème, c'est pas vous qui l'imposez.
Non. Non.
Ils font leurs recherches eux-mêmes. Vous les aiguillez évidemment. Et les interviews aussi. Et ça, c'est assez assez important pour le souligner. Les interviews, c'est eux qui vous leur donnez le matériel, vous leur montrez comment ça fonctionne, et ils s'occupent de la réalisation. Et du montage.
Oui, oui. Et ils sont allés loin, parfois.
Oui, alors, allez dans le Morbihan. Oui. On n'a pas eu d'interview en Thaïlande. Ça aurait été sympa d'aller faire un petit tour. Ou alors, un billet pour y aller ensemble, histoire de passer
un
bon moment. et puis, comme chaque année, il y a le logo. Et là, le logo, je me tourne vers notre professeur d'art plastique. De dessin, comme on dit aussi, ou de pâte à modeler.
Je préfère pâte à modeler.
De pâte à modeler. Bah là, le logo n'est pas en pâte à modeler.
Tout à fait. Donc, c'est un dessin qui a été fait par deux élèves. On peut les citer, Colombe et Melvin, qui sont aussi dans la classe média. C'est le hasard, parce que ce travail a été fait en amont par tous les élèves de 5e. Ils ont fait d'abord un logo uniquement noir et blanc. Il y a eu un vote. Et ensuite, ce logo a été repris à l'infographie, donc assisté par informatique, par les deux élèves que j'avais cités, donc toujours Colombe et Melvin, qui ont fait un magnifique logo.
Alors, on peut le décrire quand même pour nos auditeurs. En félicitant Colombe et Melvin, évidemment.
Alors, la description, on a toujours un ornithorynque, on demande d'où vient cette idée. qu'on voit sur un avion en papier, puisque ça symbolise bien le collège, avec marqué 10 ans de folie.
Et parce aussi... que c'est la dixième année et que cette émission existe.
Et oui, ça fait déjà 10 ans que Madame Billon
nous supporte.
Ouais, j'osais pas le dire, mais je le pensais très fort. Mais c'était un peu ça que je voulais dire, ouais, tout à fait.
Madame Billon, vous avez avec vous, pas le logo, mais un petit chien, c'est qui ?
Ah, c'est Idéfix, c'est la mascotte du CDI, surtout pour les sixièmes en fait.
D'accord, et donc bah, les cinquièmes ont gardé cette idée de,
oui,
d'avoir Idéfix avec eux. Bon, pour terminer, en fait, j'ai envie de clôturer cette émission avec un petit jeu, vous êtes d'accord ?
Ouais.
Monsieur Gollard, il n'est pas du tout au courant, donc il, voilà. Alors, vous avez devant vous la liste des différentes chroniques, ok ? Bon, vous les connaissez déjà par cœur. Voilà. Je vais vous donner des adjectifs, oui, et vous me direz à quelle chronique il vous fait, cet adjectif vous fait penser, ok ? Alors, on va commencer par Madame Billon. Si je dis surprenante...
La légende des chats noirs.
D'accord. Ok, c'est vrai que c'est assez surprenant. Madame Terpereau, surprenante ?
Ah, moi aussi, je serais sur la légende des chats noirs.
Monsieur Gollard ?
Moi, je serais plutôt pour que les profs donnent des devoirs à la maison.
Pourquoi ?
Bah, j'ai trouvé que les réponses étaient parfois surprenantes de oui, certains enseignants et surtout de certains élèves. C'est plutôt ça qui m'a surpris.
Je vais rester avec vous si je dis bizarre.
Eh ben à ce moment-là, si c'était bizarre, je mettrais la légende des chats noirs, là, pour le coup.
Ah oui ?
Ouais, pour moi.
Madame Terpereau ?
Bizarre. Les Tiny House, c'est plutôt original que bizarre. J'ai pas de bizarre, en fait. Je trouve que leurs thèmes sont plutôt... Parce que bizarre, je dirais, c'est assez péjoratif. Je serais plus sur l'idée de... d'original. Plus.
D'accord. Madame Billon ?
Je rejoins ma collègue, du coup. On n'a pas mené le projet pour rien ensemble. J'ai pas non plus bizarre, en fait. J'ai original pour les Tiny aussi, mais pas bizarre.
Ambitieuse ?
Je dirais pourquoi les profs ne donnent pas de devoirs à la maison, parce que c'était une vraie problématique et il a fallu faire quand même beaucoup d'interviews pour arriver à quelque chose. C'était ouais, très ambitieux très, et d'ailleurs, on a ambitieux, vraiment beaucoup d'interviews.
Bon, bah, Madame Terpereau, ouais, la prochaine fois, chose, je pose la même question pour
oui,
toutes les deux.
On est raccord, c'est ça.
Monsieur Gollard ?
Moi, j'aurais dit la Thaïlande. Parce que je sais pas, l'espace d'un instant, je suis parti. Quoi. J'étais ailleurs, j'étais plus au collège. Et j'étais là-bas, quoi.
Moi, ce que j'ai bien aimé dans cette rubrique, on en parlait juste à l'instant, c'est que Colombe, qui a été, en fait, a donné envie à Clovis. Et comme ça, ils ont travaillé tous les deux. Et ben, bravo, en tout cas. Et tous les élèves se sont très bien travaillé sur leur rubrique. Allez, drôle, Monsieur Gollard.
Alors, celui qui était drôle, quand même, je dirais, c'est le bienfait des animaux. Là, j'avoue qu'il y a eu des moments où j'ai failli me marrer. C'est pas évident hein, quand c'est en direct, même si c'est du semi-direct.
Bon, Madame Terpereau et Madame Billon.
Moi, j'aurais dit des devoirs à la maison.
Oui, moi aussi. Le sujet me faisait rire, en fait. Oui. Et puis, ça a été des débats entre nous aussi. Oui. Est-ce qu'on donne des devoirs ? Pourquoi on donne des devoirs ? Pourquoi on n'aime pas les devoirs aussi ? Parce qu'on n'aime pas forcément les devoirs en tant que professeur.
J'aurais dû mettre compliqué aussi. Alors, j'aurais dû marquer le mot compliqué. On aurait pu être dans cette rubrique, justement, des devoirs à la maison. Et enfin, créative, Madame Billon.
La Thaïlande, oui, parce qu'on est... voilà, j'aime beaucoup l'hôtesse de l'air oui, et ils m'ont fait vraiment voyager, en fait. Voilà.
Monsieur Gollard ?
Alors moi, j'ose pas le dire, mais ouais, je le dis quand même. Les Tiny House. Parce que j'ai beaucoup aimé ce petit hommage à mon cours d'art plastique. Je m'y attendais pas trop, en fait. Donc ça m'a fait plaisir, parce que comme quoi... ça donne envie aussi, les Tiny House. On en parle en cours, on en parle à la radio. Et d'ailleurs, j'ose pas le dire tout de suite, mais j'aimerais bien avoir une Tiny House. Mais comme effectivement, vous avez vu, c'est assez compliqué d'en avoir une actuellement dans pas mal de municipalités en France.
Bon, on a quand même appris qu'on pouvait s'installer avec une Tiny House si c'est moins de 3 semaines. Moins de 3 mois, d'ailleurs.
Oui, c'est
si
ça.
Si c'est moins de 3 mois.
Voilà. Mais moi, si je mets une Tiny House dans mon jardin, c'est à vie.
Et on a aussi remarqué avec les Tiny House que les élèves sont capables de vivre dedans et tout bazarder, en fait, tout le surplus qu'ils ont. Moi, je pensais que ça allait être le contraire. Ah, eh bien, merci en tout cas à vous trois d'avoir joué le jeu. Et avant de se dire au revoir et de se retrouver en 2026 pour une nouvelle édition du Collège en Folie, on remercie nos 17 élèves, Tyrone, Chris, Melvin, Noéline, Gabriel, Cassie, Charlie, Maëlys, Lison, Alina, Evan, Luca, Elias, Isia, Ruben, Colombe et Clovis. Je pense qu'ils peuvent s'applaudir, évidemment.
Vraiment bravo à vous.
Merci.
On trouve d'année en année en fait du travail qui s'améliore parce qu'on on a des rubriques bien faites et lorsqu'on passe au micro on a des animateurs qui sont prêts et qui voilà on sent qu'il y a de la préparation derrière. On a même été étonnés parce qu'on va pas se mentir, on ment jamais aux auditeurs. On a déjeuné ensemble ce midi. Madame Billon, vous avez été dans le hall du collège. Et que faisaient les élèves de 5e D?
Ils étaient en train de répéter.
Voilà. Est-ce que c'était prévu, ça?
Non, pas du tout. Non, bah, on est vraiment très fiers de vous, en fait.
Merci, Madame Billon. Merci, Madame Terperot. Merci également, Monsieur Goualart. Je rappelle, vous êtes respectivement professeur documentaliste, Madame Terperot, professeur d'histoire-géographie, et Monsieur Goualart, professeur d'art plastique, ici au Collège Guillaume Apollinaire de Bouloir, que vous accompagnez les élèves de 5e à la préparation et à la réalisation de leur rubrique pour l'émission Le Collège en Folie. Merci également à Maëlan et à Emeline qui ont aidé à la réalisation de ces rubriques. On remercie également la principale du collège, Madame Ries, ainsi que son adjoint, Monsieur Carré, pour avoir accueilli cette émission dans la salle du CDI. Une émission que vous retrouverez en intégralité, en podcast, sur le site internet de la radio ornithorynque.net. Merci et bravo aux élèves avec qui nous avons enregistré dans les conditions du direct. Et ça, il faut le souligner. Hein. On est vraiment dans les conditions du direct pour cette édition 2025. Quant à nous, on se dit à bientôt. Merci, au revoir.